being. Yeah. You should've seen me holding on with all my feelings on. I truly felt like I was about to be falling down. There's so much drama that I try to be unqualified. And all the days and all the feelings, they be all about. In my city, all the pretty things are out of price. I hate my money, I'ma take it, I won't get it back. I'm on my own, I'm on my own shit, I won't ask it twice. They got my money, I don't need.
Bonjour à tous pour cette 16e émission de l'art qui parle de notre temps. J'ai vraiment grand plaisir à vous y retrouver. Ce sont les expositions que j'ai visitées au cours de ces derniers mois qui sont à l'origine des différentes rubriques de cette émission. Un peu d'exposition, celle d'Elvia Teoxki et Myriam Mihindou, un peu d'analyse d'œuvre autour de l'œuvre de Pierre Besson, et un peu de notes de lecture tirées du catalogue de l'exposition « Peinture obsolescence déprogrammée ». Nous commencerons par la poursuite de l'étude des œuvres de la commande de la ligne A du tramway d'Orléans, aujourd'hui celle de Joël Chapiro. Voici le programme entrecoupé de musique des années 90. Pour finir, je voulais vous signaler l'expérience Living Cube qui se poursuit pour une cinquième année à Orléans. Le principe est simple. Une commissaire invite dans son appartement à venir voir les œuvres des jeunes artistes qu'elle apprécie et défend. Bravo ! Un peu de commande publique. Je vous propose de poursuivre la série de chroniques sur la commande publique qui a été lancée lors de la construction de la ligne A du tramway d'Orléans, ligne qui fut mise en service le 27 novembre 2000. Le programme artistique de cette commande publique a été conduit par Serge Lemoine, et concerne 8 réalisations artistiques confiées aussi bien à des artistes français qu'étrangers. Ce programme consista à privilégier la réalisation d'architecture de petite taille dans l'esprit des folies qui ornaient les parcs du 18e, d'Ermenonville, le désert de Retz, Bagatelle, le parc de Versailles. Une mode qui est commune à toute l'Europe et au-delà. Vous connaissez peut-être la pagode de Chanteloup, que vous pouvez voir à la sortie sud d'Amboise, elle en est un bon exemple. Cette mode de petits édicules continue d'inspirer des artistes plus récents, comme l'aménagement des folies dans le parc de la Villette à Paris, réalisé en 1997 par Bernard Tchoumine. L'agglomération d'Orléans, comprenant une grande diversité de paysages et d'architecture, devient le lieu de ces ponctuations architecturales, qui sont plus présentes pour être vues du tramway que pour être visitées. D'ailleurs, elles sont souvent difficilement accessibles et closes. La commande faite aux artistes est bien de construire une modeste architecture qui, en s'inscrivant dans l'environnement retenu, doit par ses présences visuelles le révéler. La création que réalise l'artiste est à la fois spécifique du lieu choisi, mais aussi de sa production artistique. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours du tramway, de la gare, donc des Aubrais, à celle d'Orléans. Nous avons déjà rencontré les œuvres de Pierre Kirkeby, puis celle d'Elisabeth Ballet. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celle de Joël Chapiro. Cet artiste américain est né en 1941 à New York. Il commence sa carrière dans les années 70 et connaît une renommée internationale dans les années 80-90. Les premières expositions en Europe datent de ces années-là. Lorsqu'il est retenu pour le programme du tramway, il est considéré comme un important artiste de l'art américain sur le marché. L'œuvre, intitulée « Deux maisons », qu'il place à Orléans, se compose d'un socle qui accueille deux formes collées l'une sur l'autre en équilibre sur leur base, mais décentrées l'une par rapport à l'autre. Elle représente de manière très simplifiée une maison, un sol, des murs sur les quatre côtés et deux pans d'un toit. Le tout forme un bloc unifié par la couleur grise, sans aucune porte ou fenêtre. Il s'agit d'une forme type de maison, telle qu'un enfant pourrait la dessiner schématiquement. Analysons l'œuvre. Il s'agit donc de deux formes géométriques simples, de forme rhomboïdale, qui ne sont pas des formes purement géométriques, comme le carré, un rectangle ou un cercle. Cependant, elle évoque une image, celle d'une maison. Il s'agit de deux formes égales et neutres, recouvertes d'une même peinture grise, qui crée l'unité de l'ensemble. Il s'agit de deux formes qui s'élèvent en équilibre. Il s'agit de deux formes qui reposent sur l'un de leurs angles. Et enfin, il s'agit de deux formes qui reposent l'une sur l'autre en étant décalées l'une par rapport à l'autre, amplifiant l'effet d'élévation et de précarité de l'équilibre qu'elles forment. Le recours à une forme géométrique simple s'inspire des artistes américains fondateurs de l'art minimal de la génération précédente. Pour n'en citer que quelques-uns, Carl André, Donald Judd, Dan Flavin, Robert Morris, Richard Nenas, tous ceux-là vont révolutionner la sculpture. Le mot « minimal art » provient d'un article du 4 janvier 1965 de Richard Wollheim, paru dans Art Magazine, qui révèle les processus minimaux que les artistes peintres comme Hard Reinhardt ou Robert Rauschenberg emploient. Puis le terme détourné de sa signification d'origine est largement employé ensuite par la critique pour analyser les œuvres dites « minimales », souvent enfermées dans une lecture littérale, comme le mentionne la fameuse phrase de Frank Stella « Tout ce qui est à voir est ce que vous voyez », cité lors d'un entretien avec Bruce Glaser en 1964. Prenons une œuvre de Carl André pour poursuivre notre approche très globale de l'art minimal. Ange, Meditation on the Year 1960. Composé de trois madriers de bois bruts verticaux et d'un madrier horizontal placé dessus. En refusant toute signification symbolique, Carl André dit « Mon œuvre n'illustre pas plus une idée que ne le fait un arbre ou un rocher, une montagne ou un océan. » Globalement, pour simplifier le propos, les œuvres minimales recherchent une neutralité, une impersonnalité, un anonymat, refusent les formes expressives en privilégiant des formes les plus simples possibles, les moins chargées d'images, de représentations et d'affects, et des formes souvent sérielles. 2. Elle transforme le rapport avec le spectateur en créant des œuvres qui visent à établir un rapport d'expérience, de vécu entre l'œuvre, l'espace et le spectateur. Les équilibres, les échelles de mesure, les matières, les renversements, les inversions, les duplications, les séries sont autant de manières pour l'artiste pour engager le visiteur à éprouver une expérience personnelle rendue possible parce que l'artiste refuse de l'investir de sa personne. Carl André, dans l'œuvre Ange, qui n'est pas sans évoquer les pierres dressées de Stonehenge en Angleterre, invite à faire l'expérience de la réalité même de cet agencement de madriers. Pour prendre un autre exemple, Walter de Maria, dans son œuvre The Lighting Field de 1977, plante dans un désert 400 poteaux en acier inoxydable pour attirer les éclairs. L'artiste offre une expérience de la foudre aux visiteurs qui sont contraints, s'ils veulent voir l'œuvre, de passer une nuit sur place, en espérant pour eux que ce soir-là, des orages interviennent. Cependant, dans un entretien avec Philippe Dagen, Joël Shapiro, en 1986, refuse l'étiquette d'art minimal de façon très précise. Il répond « Non, pas du tout, je ne crois pas que mon travail ait quelque rapport que ce soit avec le minimaliste. Ne serait-ce qu'en raison des références qu'il contient. Le minimaliste, je l'ai étudié naturellement, j'en ai retenu ce qui convenait et j'ai évolué suivant mes propres besoins. » En effet, il a bien compris du minimaliste comment utiliser la radicalité d'une forme neutre, impersonnelle, mais non pour chercher à créer une expérience pour le visiteur, mais pour la mettre au profit d'une image porteur d'une symbolique en concentrant l'effet sculptural. D'ailleurs, pour lui, cette abstraction des formes n'est pas antinomique avec la figuration. Il dit « Parce que l'abstraction ne condamne pas au refus de la figuration et de la figure, Il n'y a là aucune contradiction, il faut le comprendre. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de verticalité, anthropomorphique ou non. Il s'agit d'espace, d'expression, et de savoir comment assembler, réunir, unifier. Les difficultés sont les mêmes. C'est la manière de produire et d'articuler les formes qui reste la chose principale. C'est cela le vrai problème de la sculpture, la manifestation des formes, qui est aussi la manifestation du corps. Joël Shapiro ne cherche pas, comme les minimalistes, à nous faire partager une expérience, mais à nous offrir une sculpture à la gloire de la modernité, que l'on pourrait rapprocher des statues qui peuplent les parcs et places de nos villes, à la gloire des grands hommes que le 19e a tant produit. Son œuvre donc se construit à partir de formes métaphoriques, qui deviennent récurrentes dans son œuvre. La forme qui évoque une maison apparaît dès 1973. Caroline Smulder, dans un article d'Art Press de 1991, écrit « Shapiro raconte, lorsqu'il posa au sol sa première maison composée de 6 pièces de bois, il se demanda « Cela peut-il être une sculpture? Est-ce un pentagone ou une maison ?» Métaphore du passé ou d'une expérience vécue, la maison fait partie de l'imagerie émotionnelle qui fait inévitablement pencher le spectateur de l'interprétation immédiate d'un pentagone vers une maison. Cette forme chargée d'affect primordial dominera durant quelques années le travail de Shapiro, qui en déclinera toutes les possibilités structurelles. Fixé au mur avec, partant de ses fondations, une plaque en bronze se terminant verticalement dans le vide, la maison évoque ici le connu face à la route qui appelle vers le futur et l'inconnu. Placée au centre d'une sorte de table, surface plane surmontée de pieds, la propulsion en hauteur, cette maison-là évoque le vide, l'isolement. Étant posée directement au sol, les maisons soulignent leur relation avec les pièces, les murs de la pièce. Elle n'est pas rare que cette image de la maison soit retenue par des artistes. Je pense par exemple au peintre Le Goumélec, qui retiendra cette schématisation de l'image d'une maison comme une sorte de symbole de la permanence de la vie. Shapiro installe une résistance à ne pas y voir la représentation d'une maison, mais plutôt l'image mentale d'une maison. En effet, les maisons sont comme envoyées en l'air comme un ballon par un coup de pied énergique. Elles n'ont pas de fondation, puisqu'elles ne tiennent que sur un angle, dans un équilibre qui paraît bien instable. De plus, elles sont aveugles, sans porte ni fenêtre, et recouvertes d'une peinture grise qui unifie l'ensemble des deux maisons accolées. Elles constituent un tout qui forme une image, un peu comme une croix verte va nous évoquer une pharmacie. Dans ce sens, cette sculpture constitue un signe dans la ville, comme une folie sert de point de repère dans un parc. Ainsi, l'artiste répond bien à la commande en faisant bien une sculpture qui habite la ville, comme ces petits édicules dans un parc, reprenant l'image de la maison qui constitue en partie le bâti de la ville, mais qui l'élève comme pour l'extraire de toute lecture trop littérale et la rendre accessible comme un signe de reconnaissance, d'appartenance à cette ville. D'ailleurs, il n'est pas anodin qu'il ait tenu à inclure le sol du rond-point dans son œuvre, un cercle comme image métaphorique de la ville traversée par une bande blanche, image d'un cheminement dans la ville, formant un angle sur le sol et la sculpture qui est au niveau de l'angle comme un point dans la ville. Cette œuvre n'est ni une vision littérale d'une maison, ni un symbole de la maison dans la ville, juste une image mentale d'un repère dans la ville fait pour ses habitants. Nous allons écouter « No Ordinary Love » de Sade, de 1992. Sade Adu est une chanteuse d'origine nigérienne venue à Londres qui va connaître un succès mondial. un peu d'analyse d'œuvre. De passage à Poitiers, j'ai pu visiter l'exposition « L'atelier des mémoires, vive et imaginaire, art informatique et cybernétique » qui se terminait fin octobre. À l'entrée trône une pièce monumentale de Pierre Besson, une architecture noire que le visiteur peut traverser. Les installations artistiques qui établissent des formes d'architecture sont nombreuses, pour ne citer que quelques noms qui me viennent à l'esprit. Kawabata, Creek de Coney. Bien entendu, toutes ces installations prennent des formes et des sens différents. Pierre Besson est un artiste français né en 1951 qui pratique la photographie, la sculpture et la réalisation de maquettes. L'œuvre en question s'intitule « La maison du dé » 2021. Il s'agit globalement d'un cube dont la description n'est pas aisée, car quelle que soit la face que nous regardons, il est impossible d'en déduire les autres et de se faire une idée du volume global qui la constitue. À l'entrée, une sorte de porche ouvre sur un couloir dont le mur bombé nous empêche de savoir s'il y a une sortie. Deux contreforts en haut semblent soutenir un mur droit et sur le côté, une face inclinée s'arrête sur un mur bas. Sur le côté droit se forme une succession de plans dont le dernier en L se décolle de la structure. Et sur la gauche se trouve une rampe à double volet qui bute sur le haut de l'un des murs. Sur le côté gauche, deux murs droits sont rassemblés par deux murs à mi-hauteur qui se succèdent. Et enfin, sur le côté de la sortie, un grand mur de face comprend une porte avec des décochements et une sorte de rambarde épaisse en L qui redirige le visiteur vers la gauche. Si l'on pénètre, aucune des vues que les ouvertures permettent ne vise à nous montrer un point de vue particulier. De plus, le chemin est si déstabilisant que l'on pourrait se croire, dans l'espace d'un jeu vidéo, à passer d'un axe de vision à un autre, pris dans le mouvement de notre déplacement, sans garder le souvenir de ce qui a été vu, puisqu'il n'y a rien à voir, aucun ennemi en vue. Clairement, c'est n'a rien comprendre de la logique qui a conduit cette construction monumentale. Pour l'artiste, c'est la première fois qu'il construit une œuvre aussi monumentale, habitable et biscornue, si je reprends l'adjectif utilisé par Étienne Hatt pour décrire l'œuvre dans son article Art Press Web Actualité du 1er octobre 2021. Ce terme biscornue pour décrire cette œuvre peut surprendre. La définition de ce terme, prise dans le dictionnaire Le Robert, est qui a une forme irrégulière présentant des saillies. Elle résume assez bien ce que l'on perçoit de la pièce. Elle est difficile à saisir, tant ces saillies créent un espace hybride, ne nous permettant pas aisément de circonscrire le volume architectural. Quelle logique de construction a-t-elle pu agiter l'esprit de l'artiste? Y en a-t-il une? Et que vient faire une telle œuvre dans une exposition en lien avec le numérique? En fait, Pierre Besson désosse des ordinateurs, des imprimantes et toute autre pièce informatique et prend en photo leur intérieur qui deviennent des pièces, des parkings, des entrées dessinant une cage d'escalier, etc. À chaque fois, l'agrandissement par la photographie transforme l'espace perçu et éloigne le regardeur de l'espace souvent très petit d'origine. De fait, il réalise des maquettes qui lui servent d'espace à photographier avec une micro-caméra. Il utilise un processus qu'emploie aussi le photographe allemand Thomas de Mande, qui reconstitue des lieux en miniature pour les photographier, tels le bureau ovale de la Maison Blanche, des tunnels, des intérieurs, des ateliers, etc. Tous deviennent de grandes photographies qui semblent être prises sur place. Philippe de Cobert lui procède aussi avec des photographies de maquettes. L'exposition, par exemple au Havre, au musée d'art moderne André Malraux, sur la ville reconstruite, est absolument saisissante. Elle dure jusqu'au 7 novembre 2021. Mais revenons à la maison du dé de Pierre Besson. Cette œuvre est la reproduction exacte, mais agrandie X fois, d'une petite pièce d'imprimante. Ce n'est pas nouveau de constater en art contemporain que d'agrandir un objet de manière monumentale en change la perception. Claes Oldenburg, artiste suédois vivant à New York, a popularisé ce processus avec ses cornets de glace géants, son couteau suisse naviguant sur le Grand Canal de Venise. Des artistes comme Liliane Bourgeat reprendront le principe avec des chaises géantes, des mètres à ruban qui se déroulent sur tout un grand espace, etc. Dans ce sens, nous pourrions dire que Pierre Besson reprend ce processus comme tant d'autres pour agrandir l'objet, ici la pièce d'imprimante. Or, il n'a pas la même attention que les artistes suscités, puisqu'il est quasiment impossible de reconnaître l'objet agrandi. L'agrandissement de l'objet n'est donc pas le déplacement de l'objet dans une autre dimension, comme les bottes de 7 lieues de Gargantua. L'agrandissement, comme la photographie d'une pièce d'imprimante chez Pierre Besson, est la découverte de nouvelles perceptions de l'espace, de l'objet, non des potentialités de l'image de l'objet, comme dans les œuvres de Claes Hindenburg ou de Liliane Bourgeat. De même, ce n'est pas tant d'architecture qu'il nous parle que de conscience de l'espace architectural. Cette pièce monumentale n'arrive pas à être une architecture. Car elle résiste à être habitée, elle ne peut être que traversée par des corps qui jamais ne pourront l'occuper. Elle est donc une expérience, un jeu, et son enveloppe un décor pour l'espace qu'elle crée. Elle joue plus le rôle d'un révélateur d'espace que de construction d'un espace. Ainsi, Pierre Besson est plus un créateur d'espaces architecturaux liés au déplacement du visiteur, vide de corps, puisque seul l'œil agit. Sommes-nous si loin des espaces architecturaux virtuels et de la conscience de nos déplacements dans ces espaces? Ce serait peut-être amusant de courir d'une pièce d'imprimante à une autre, non? Nous allons écouter maintenant Thunder de Prince dans l'album qui est tiré de l'album Diamonds and Pearls de 1991. Thunder all through the night. Promise to see Jesus in the morning light. Take my hand, it'll be all right.
Was like thunder all through the night, and the promise to see Jesus in the morning light. Love said, take my hand, it'll be alright. Come on, save your soul tonight. Love's kiss was running all through my veins. The bed started shaking, I don't know who to blame. Me or this fly. In this
un peu d'exposition. D'exposition en exposition, au cours de notre déambulation dans les lieux d'art contemporain, il arrive parfois que nous distinguions des convergences entre certaines expositions. C'est le cas pour les expositions Silo de Myriam Miendou au Transpalette de Bourges de juillet à septembre 2021 et Molusma d'Elvia Teotsky à la Criée de Rennes du 25 septembre au 19 décembre 2021. Bien que différentes, elles s'interrogent sur le lien entre l'homme et la terre qui, dans un double mouvement, traite de l'organicité des êtres qui nous rassemblent tous et de la permanence de notre appartenance aujourd'hui, hier et demain à l'univers. Présentons les deux artistes. Myriam Miendou, née en 1964 à Libreville au Gabon, ses nombreux voyages en Afrique, Maroc, Ouganda, Égypte, aux Amériques, l'a conduit ensuite à un passage à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Elvia Teotsky, née en 1983 à Toulouse, possède une solide formation, un diplôme de l'École des Beaux-Arts de Toulon, une licence à l'Université d'Aix-en-Provence et un diplôme d'ingénieur d'études d'agronomie des régions chaudes à Montpellier. Détaillons maintenant le travail de chacune d'entre elles, en commençant par celui d'Elvia Teotsky. Elle s'intéresse à la vie de la matière organique et à son évolution dans le temps. Une première œuvre, Un monde en construction de 2017-2020, se compose de petites bottes de paille ensemencées de mycélium pour cultiver industriellement des champignons, mais qui sont mises au rebut car les champignons y ont puisé toute la cellulose de la paille. Elle forme des sortes de briques qu'elle a agencées comme une sorte d'architecture précaire, irrégulière. Le visiteur identifie difficilement la matière, mais perçoit qu'elle a évolué et qu'elle continue à évoluer dans un cycle de transformation qui la rend vivante. Dans une autre œuvre, L'inertie des rejets de 2020, elle accroche sur une échelle triangulaire pour aller cueillir des fruits, les résidus des fruits issus d'une distillation. Sorte de pot, ils pendent aux barreaux et s'altèrent plus ou moins lentement. L'œuvre Armar Rompecabezas con Nuestro Residuos de 2019 nous présente dans un bac en bois un carré de terre excavé d'un terrain de conditionnement d'une bananeraie. La terre brûlée porte les stigmates de son activité, les restes des bidons phytosanitaires, les sacs et les ficelles, etc. Dans l'œuvre K1KA de 2017, elle a provoqué la cristallisation de barres d'apapa sur une grille en bois dressée, laissant le spectateur face à un objet très inattendu, sans trop qu'il sache de quoi il s'agit. La barbe à papa forme des cristaux blancs qui s'accrochent sur la grille, comme si la matière avançait perpendiculaire à la grille. Cette mutation de la matière se retrouve dans des dessins de bulles de savon chargées d'encre noire qui créent des traces sur le papier résultant de l'éclatement des bulles et forment des sortes de dessins d'architecture organique. Dans l'œuvre Sans fin de 2018, l'artiste part d'une photographie d'un détail de l'œuvre K1KA qu'elle segmente en plusieurs feuilles de papier azim pour créer une grande composition qui reconstitue la photographie d'origine. Ce papier alimentaire est sensible aux conditions extérieures, humidité et chaleur. Il se gondole et peut être grignoté par les insectes. La description de ces quelques œuvres renseigne son propos qui porte au travers de l'observation de la matière celles issues de rebuts de déchets, au constat de leur évolution organique et à la prise de conscience d'un état dégradé de la Terre et à la critique de ce que nous lui avons fait subir. Lotte Arne, commissaire de l'exposition Molusma à la Criée de Rennes, écrit « Elvia Teotsky investit l'espace mouvant où les formes de vie interdépendantes se sédimentent et où les sociétés humaines laissent des empreintes. Ses recherches l'ont ainsi amenée au Mexique, où elle a élaboré des installations évolutives réalisées par strates de déchets domestiques et agricoles collectés aux abords des plantations depuis l'époque coloniale. À Marseille, une recherche sur l'impossible recyclage de déchets toxiques à partir de boues rouges, issues de l'extraction industrielle de l'alumine, a prolongé ses enquêtes sur les déséquilibres environnementaux. Molusma, en grec, signifie la tâche, la souillure. Le terme fut proposé dans les années 1960 par le biologiste marin Maurice Fontaine, pour désigner l'aire géographique actuelle marquée par la production de déchets. Pour entrer dans son exposition, à la Criée, nous devons soulever un voilage qui retient quelques centaines de criquets, qui occupe librement l'espace de l'exposition, oblige le visiteur à prendre conscience de leur présence et à veiller de ne pas les écraser. Des formes architecturales formées de briques de terre, de chantiers et d'algues, sortes de petits tunnels soutenus par des voûtes, reprennent les techniques antiques de l'Égypte, servent de refuge aux insectes qui y mangent les déchets du marché voisin. Mais ils peuvent aussi se repaître de feuilles azimes d'une œuvre photographique qui reprend le principe de l'œuvre sans titre que nous avons décrite, mais représente des voiles de forçage pour protéger les cultures maraîchères du temps et des insectes. La matière qu'elle soumet à son examen scientifique livre peu à peu la réalité de son état et nous incite à en dresser simplement, presque naturellement, un constat critique. Les insectes, tels les criquets, participent de l'univers comme nous, comme la terre ancestrale des Égyptiens aujourd'hui, qui les accueille. Ils circulent librement, mais sont soumis au risque de la vie, à la loterie de la vie, comme le dit Gilles Tiberghien en commentant la vidéo Transversia 2019, dans laquelle Elvia Teoski s'intéresse aux crabes bleus, qui traversent la route et qui, malgré leur vigilance, sont parfois écrasés par un camion. Crabes, criquets sont comme nous bien fragiles. Ils mangent nos déchets et symboliquement grignotent les voiles de forçage, faits pour éviter qu'ils puissent attaquer à nos récoltes. Notre désir de contrôle de la terre n'empêche pas d'être débordé par ses conséquences. Nous appartenons à cette terre comme tous ceux qui la constituent, animaux, végétaux. Nous sommes tous, comme habitants de la terre, si fragiles par rapport au déséquilibre que nous créons, et la prise de conscience d'être un habitant de la terre nous oblige à la regarder, à veiller sur elle et à apprendre à vivre avec elle. Myriam Miandou ne dit pas autre chose mais différemment. La commissaire de son exposition, Silo Julie Krent, en commentant le titre, écrit « Au départ, un silo est une cavité creusée dans le sol. À même la terre, les récoltes sont entreposées, puis recouvertes pour leur conservation. La terre épaisse protège du froid et des assaillants. Le silo constitue une réserve, il fait partie du quotidien, sa présence est aussi essentielle qu'invisible. » En adéquation avec la pensée à la fois métaphorique et politique de Myriam Miandou, le silo est synonyme du grand corps, le corps collectif, celui qui rassemble les vivants et les morts, les humains et humaines, les non-humains et non-humaines. L'artiste écrit « Le silo, le fait de planter, de récolter, de conserver, par la communauté, pour la communauté, anticiper, prévoir et gérer les aléas de la vie, affiner la science de la préservation des grains, tout cela constitue le silo, une écologie de la pensée pour le grand corps, qu'il est bon d'oxygéner de toutes les façons possibles, pour toutes les fonctions possibles. Comprendre le silo, c'est considérer le grand tout comme une valeur du collectif à l'intime et de l'intime au collectif, comme construction de la pensée. L'univers serait donc le grand corps. Pour Myriam Miandou, le grand corps rassemble les vivants et les morts, conjugue le passé, le présent et le futur. Elle désigne à la fois les plantes, les animaux, les humains, humaines. L'artiste n'opère pas de distinction, de hiérarchisation entre les êtres vivants, écrit Julie Crène. Le grand corps fait aussi référence à la philosophie d'Ongon. L'artiste écrit « Dans les pays d'Ongon, tu as un corps, ton corps est dans le paysage qui est un corps, cette maison est dans un village qui est un corps, le village dans un pays qui est un corps, qui est dans le monde qui est un corps. C'est une réflexion en gigogne du corps, c'est une approche philosophique mais également écologique du monde. » Si Elvia Teoski traite de la matière de la terre et des atteintes que notre monde économique lui fait subir, Myriam Miandou traite de ce corps, le sien, parmi les autres corps du monde, et de ce que le colonialisme, le patriarcat et le monde économique lui fait subir. Elle recourt à une grande variété de médiums dans son travail, vidéo, photographie, installation, performance. Dans les œuvres sculptures de chair de 2000, elle représente sur un fond rouge sa main couverte de blanc, comme un corps contorsionné avec parfois des épingles, sorte de fétiche issue de rituels de guérison. Le blanc sur la main, le kaolin, pembe, est appliqué sur la peau lors de rites initiatiques de passage. Le rouge est une couleur qui renvoie à une nécessité vitale, à la féminité, au sacré, voire au sacrifice. Entre le sacré et le profane, le corps est en jeu, nous dit l'artiste. Dans les impressionnantes photographies en négatif, d'échoucage de 2004 à 2006, faites à Haïti, les corps sont tordus comme dans une transe. Ils apparaissent comme des fantômes de la mémoire collective des atrocités du gouvernement d'Aristide. Les sculptures services de 2020 représentent des fourchettes, dont un bloc de terre portant les traces d'une main serrée en serre le manche. Signe de cette évolution des mœurs, de la main à la fourchette utilisée pour manger, et du poids de la colonisation qui apporte l'usage de la fourchette comme un signe de civilisation. La vidéo « La complainte du serpent muet » réalisée à Tanger en 2008 nous montre l'artiste insérant des morceaux de verre cassés dans un bas de nylon, évoquant avec une violence symbolique la situation des femmes qui, si elles ne répondent pas au schéma patriarcal, sont considérées comme des putains. Une autre vidéo, « La reine » de 2008, l'artiste nous montre un papillon mort porté par des fourmis, levé comme un catafalque et accompagné d'une musique jouée sur une sansa, instrument traditionnel africain, utilisé par les guérisseurs au Gabon dans le cadre de cérémonies. L'artiste nous dit « Pour moi, le son réactive l'histoire de cette petite mort symbolique pour lui donner vie. Comme un son qui triomphe de la mort, qui réanime de façon mystique tous les génies qui ouvrent les possibles d'un horizon salvateur. Je suis là, déjà, dans cette image en processus de métamorphose, comme je me réveille aidé par cette escorte de fourmis. » Nous y retrouvons l'idée de ce grand corps, du passage d'un corps à l'autre, de la vie à la mort, d'un espace à l'autre. Myriam Mihindou, dans la vidéo réalisée par le Transpalette pour l'exposition que je vous invite à visionner, exprime le nomadisme, les migrations, en parlant de son œuvre « Langue secouée » de 2018-2021, qui est une installation de fils de cuivre, de bois et de verre soufflé et de dessins qui forment des mots dans différentes langues, qui s'enchevêtrent, se dédoublent, se tordent. Mais la migration pour elle n'est que la logique de nos vies. Nous sommes toujours en migrance, que la sédentarisation est une notion très artificielle et que nous gagnerons à prendre les mots de migration, de migrants de façon plus dynamique et même opérante dans nos projections, dans nos imaginaires et dans notre façon aussi d'entrevoir l'avenir ensemble, nous dit-elle. Vous l'aurez compris, ces deux expositions parlent d'écologie et de la manière de réfléchir sur le changement de notre approche du monde, de nos façons de vivre, de le penser autrement. La critique du système économique, de ce qu'il a produit négativement au cours de son histoire, de ce qu'il produit aujourd'hui et de ce qu'il pourrait encore impliquer dans le futur, s'il n'est pas modifié, s'inscrit, je dirais, presque naturellement dans leurs propos, tant elle est connue, analysée et répétée. Elle s'intéresse avec un coup d'avance sur cette nouvelle façon de réfléchir sur nos modalités de vie future et de penser sur quoi le monde de demain pourrait arrimer sa pensée. Dans ce sens, ces deux artistes, comme tant d'autres, nous présentent un art qui parle de notre temps, qui propose des formes artistiques pour appréhender leur manière de voir, qui ne sont en rien des injonctions, bien au contraire, ce sont des invitations à questionner le monde dans lequel on vit, de le penser par rapport à son histoire, positive et négative, et d'imaginer celui de demain dans nos imaginaires. Nous allons écouter maintenant « Bittersweet Symphony » de 1997 du groupe anglais The Verve. Un peu de notes de lecture. Je suis passé voir récemment une exposition intitulée « Peinture, obsolescence déprogrammée » qui a lieu du 17 octobre 2021 au 16 janvier 2022 au Musée des Beaux-Arts des Sables d'Olonne. Elle traite de la relation entre le numérique et la peinture. Le catalogue résulte de deux journées de séminaires qui ont eu lieu en 2018 et 2019 et se compose de nombreuses participations de chercheurs, d'artistes et de critiques d'art. J'ai choisi l'une d'entre elles, celle d'Hélène Trespech, intitulée « La peinture abstraite et le numérique » ou « La volonté d'être de son temps, toujours ». Elle écarte de son propos tous les artistes qui ont voulu mettre à distance leur subjectivité par l'installation d'un processus de travail confié à des machines, comme François Morlet qui utilise des calculs aléatoires pour créer une œuvre dont le titre fait le plus souvent référence au processus qui l'a fait naître. Elle privilégie l'étude de quatre artistes, Albert Hollen, Rémi Huisberg, David Reed et Eberhard Avekos, qui intègrent les apports du numérique pour poursuivre la réalisation d'une peinture abstraite et en affirmer l'actualité. Dans les computer painting, Albert Hollen utilise l'ordinateur pour développer le dessin et la gamme chromatique du tableau abstrait qu'il envisage, puis il le retouche à la peinture comme pour réaffirmer la capacité de la peinture à définir seule l'œuvre. Dans un entretien de 2011, il dit: ce qu'on attend d'un ordinateur, c'est qu'il nous aide à faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Il ouvre une fenêtre sur l'avenir. Alors que mes computer painting font exactement le contraire. Elles renvoient au passé, j'essaye de corriger l'image pixelisée et j'aboutis à une image peinte à la main. C'est une sorte d'inversion. Au lieu de regarder vers l'avenir, elle se retourne vers le passé. Et l'ordinateur ne m'aide pas, c'est moi qui aide l'ordinateur. Dans sa série de peintures circonstancielles, Rémy Huisberg vise à imiter par la peinture l'une des caractéristiques fondamentales de l'image numérique, la lumière rétroéclairante, celle qui provient de derrière l'écran, et non celle directe qui provient du devant de l'écran. Dans la peinture traditionnelle, les artistes rendent compte de la lumière extérieure qu'ils observent sur le sujet de la peinture. Les ombres et la lumière viennent frapper tel ou tel personnage, tel ou tel paysage, tel ou tel objet. Ici, en utilisant des supports spécifiques du Comacel ou le PMMA miroir, il parvient à créer une peinture dont l'objet est justement l'image d'un écran numérique, mais statique, comme pour nous obliger à ne rien attendre de l'image numérisée. Ces écrans flous et arrêtés sont ceux des écrans qui bug, pixelisent à l'extrême et viennent interrompre brutalement le flux des images. Cette frustration de ne plus avoir d'image nous renvoie justement à cette contemplation de l'image peinte fixe dont on pourrait croire que les images numérisées l'ont rendue obsolète. Flux d'images abétissantes consommées pour être rejetées aussi vite qu'apparues ou images qui invitent à la réflexion, à la contemplation. N'est-ce pas un débat actuel ? Peut-on laisser des enfants devant ces écrans qui, dès le début de leur vie, se voient lessivés par le trop-plein d'images trop vite jetées ? Notre société de consommation, qui méritait d'être interrogée, ne livrait-elle pas joyeusement à cet immense et continu marché aux images dont la gratuité ne cache ni l'enrichissement ni la malveillance ? Eberhard Tavekos crée des tableaux abstraits qui apparaissent comme des halos, des nuages de densités différentes. Ils sont issus de plusieurs plans d'images prises dans une série télévisée de la chaîne Comédie, qu'il travaille ensuite à l'aide d'un logiciel de traitement d'images. Le résultat, pourtant formellement proche des peintures des artistes du mouvement nuagiste d'après-guerre, de celle de Frédéric Benrath par exemple, s'en trouve éloigné. L'image, pourtant inidentifiable, conserve une impression visuelle forte qu'elle découle de quelque chose, et qu'elle n'est en rien un simple nuage ou un brouillis abstrait. Elle joue de cette capacité de la peinture à porter la présence de la pensée de son auteur. Tous les experts d'art ancien savent, grâce à leur longue complicité visuelle avec les œuvres d'un peintre, les authentifier. Ainsi, l'artiste nous propose un regard de résistance face à la succession effrénée des images dont la seule contemplation est en mesure de délivrer son énigme. Les tableaux de David Reed sont en général très longs et peu larges, comprenant des motifs abstraits gestuels qui s'ébattent dans les différents rectangles qui se superposent. Ces rectangles nous rappellent autant la fenêtre sur le monde d'Alberti, mais aussi les fenêtres qui s'ouvrent et se multiplient sur les écrans de nos ordinateurs. En jouant de la similitude possible des deux principes fondateurs, la fenêtre découlant de la perspective de la Renaissance et l'éclatement des points de vue de la révolution de l'art moderne, il rappelle la puissance de la peinture à dérouler une histoire à lire au travers des siècles. De la prédelle du XIIIe siècle qui déroule des histoires au sein de chacune de ses parties, à la succession des fenêtres gouvernées par la perspective à la Renaissance, à celle des multifenêtres de l'écran d'ordinateur qui libère une multitude de contenus différents, juxtaposés, selon différentes cohérences, celle de la recherche de l'utilisateur, celle de la publicité et celle des algorithmes qui mènent la danse. Ainsi, l'auteur développe la thèse que ses peintres, tout en développant un langage plastique quasi universel et presque intemporel, l'associe à des enjeux artistiques contemporains, comme l'ont fait les peintres abstraits au début du XXe siècle. Il est indéniable que l'apparition des arts mécaniques, la photographie et le cinéma, a poussé la peinture à se positionner vis-à-vis d'eux. Mais si l'art abstrait a cherché à définir un langage plastique universel et intemporel, il ne l'a pas fait pour contrer l'arrivée de la photographie, comme il est communément pensé. Hélène Trespotch cite la thèse d'un historien d'art important de l'art abstrait, Meyer Shapiro, et fait une citation de son livre « La nature de l'art abstrait ». Je le cite. « Les anciennes catégories artistiques furent traduites dans le langage de la technologie moderne. L'essentiel fut identifié à l'efficace, l'unité à l'élément standardisé, la texture aux matériaux nouveaux, la figuration à la photographie, le dessin à la ligne tracée à la règle ou par voie mécanique, la couleur à la couche de peinture en aplat et la composition à la maquette ou au mode de construction. Les peintres accrochaient ainsi leur activité archaïque et vaine aux formes les plus avancées et les plus impressionnantes du système de production moderne. et le pas ne fut pas si grand à franchir pour passer de l'abstraction expressionniste, cubiste ou suprématiste à un style plus technologique, précisément du fait qu'ils envisageaient la technologie de manière plus abstraite, telle une force indépendante ne se pliant qu'à ses propres modalités internes, tout comme l'ingénieur concepteur incarnait à leurs yeux le véritable démiurge du monde moderne. La peinture abstraite n'aurait jamais abandonné l'image, elle s'en serait nourrie. Des études récentes le notent, les peintabcès se sont intéressés aux images jusqu'alors invisibles en raison de la perception humaine. Les vues aériennes, les chronophotographies qui décomposent un mouvement en plusieurs photographies, les rayons X. Pour l'auteur, l'art abstrait du début du XXe siècle à nos jours poursuivrait toujours une visée paradoxale, rechercher un langage intemporel et universel tout en intégrant dans son fonctionnement les aspects technologiques les plus récents. Son approche est intéressante car elle place la peinture non pas comme un art engoncé dans sa tradition, mais comme un art développant un langage intemporel et universel intégrant les évolutions technologiques. Peut-être faudrait-il poser la question en sens inverse, non pas comment le numérique change la peinture, mais comment la peinture change le numérique dès lors que ce ne sont plus les outils numériques qui seraient censés agir sur la peinture, mais les outils de la peinture qui agiraient sur le numérique. Qu'importe alors qu'un peintre utilise ou non les outils numériques pour parler du numérique. D'ailleurs, David Reed et Rémi Wisberg n'utilisent pas de processus informatique dans la réalisation de leurs peintures, à la différence d'Albert Hollande et d'Eberhard Havekost. Nous pourrions conclure que la relation entre la peinture et le numérique ne résulterait plus de l'influence de la technologie, du numérique sur la peinture, mais des modes et différents régimes de la peinture et de l'art en général sur le numérique. Autrement dit, la peinture n'évoluerait pas en fonction des outils numériques mis à sa disposition, mais se développerait sur la pensée qu'elle mènerait sur l'actualité des technologies numériques. L'obsolescence des programmés ne proviendrait pas de la réaction de la peinture au contexte numérique, mais des modes de la peinture capables de les intégrer. Ainsi, les non-fugible tokens seraient à rapprocher des zones de sensibilité immatérielle d'Yves Klein, mais ça, c'est une autre histoire. Écoutons maintenant Jamiroquai, groupe anglais des années 1990, le titre The Virtual Insanity, morceau tiré de l'album Traveling Without Moving de 1996, qui est le troisième album qui connut le succès. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.